Bonjour à tous. Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Nous sommes lundi matin. J'espère que vous allez bien réveillés.
On vous réveille tout en douceur ce matin.
Mon nom est Nelson. Je suis accompagné de Marc-André. On parle doucement suite à cette belle pièce musicale de
Chet Atkins.
Chet Atkins and his guitar.
Yes, indeed. The Bells of St. Mary's.
On est vraiment comme des animateurs de la radio communautaire.
Hein? Oui, FM. Et bon matin chez vous. Prenez une petite tasse de café et promenez-vous comme Chet Atkins, la guitare sur l'épaule, sur les bio du train, et promenez-vous sur le pont noir et à l'aventure. Il part à l'aventure. On the road again. Jack Kerouac. C'est pas merveilleux.
C'est très beau.
Un petit vinyle que j'ai trouvé. C'est la petite guitare poète-poète comme ça. Des fois, ça me prend ça quand je dessine, quand je veux chiller. Et c'est sympathique. Je pensais que c'était plus jazzy que ça, mais c'est du guitar picking comme ça, là, tout le long. Fait que c'est sympathique.
Belle musique. Pour commencer l'émission.
Tout en douceur, tout en beauté. Aujourd'hui, je capote. On va continuer de parler de Québec parce que la dernière fois, il y a tellement de choses qui se passent à Québec que je vais vous raconter d'autres affaires. On va avoir de la musique locale, on va avoir de la musique de l'Argentine, on va avoir de la musique de la France. On est international. International.
On vous fait voyager.
Gratuitement.
Gratuitement, en écoutant la radio.
Areolinas Molinas.
Que vous soyez dans votre véhicule, dans votre lit encore.
Dans votre avion.
En train de snoozer pour la cinquième fois.
Dans votre hélicoptère pour éviter les cônes orange.
Oui.
Tout ça.
Ou en vacances, sur le bord de la plage.
Vacances, oui. Enjoy. Take a beer. Il est midi à quelque part.
Oui, exactement.
Hey, gars, je vais y aller tout de suite à Québec. Québec. Si j'avais des ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Hey, à Québec, je suis allé, je fais un callback. Ceux qui nous suivent depuis le début, Nelson, c'est un explorateur urbain. Il est allé à Québec avant moi. Il est allé voir une exposition qu'il m'avait fortement conseillée. Il avait fortement raison. Et c'est fortement cool parce que c'était fortement gratuit. Ça coûte nada. Ça coûte zéro. C'est gratos. C'est gratis. Je pense que c'est la gang de Passage Insolite qui organisait tout simplement l'exposition. Vas-y.
L'exposition Bad Art.
Oui. Donc, dans le Petit Champlain, c'est gratuit. C'est comme dans une ancienne fonderie. En tout cas, il y a comme une espèce de gros tuyau, une grosse affaire en métal dans l'entrée et tout ça. C'est sur 3 étages et je suis allé voir de mes yeux. J'ai vu là. J'ai pas checké sur son Instagram. J'ai pas été regarder. Non, je l'ai vu. J'ai senti. J'ai vu la toile live. J'ai vu une toile que Nelson m'avait parlé d'une fille. Une fille comme la fille Clochette, mais vraiment poquée de la vie. Et la toile est poquée. Il y a un trou dedans.
Oui, c'est vrai.
Puis une autre toile qui a été sûrement là, attaquée par l'eau. Elle a bendé. Excusez mon anglicisme. Elle est croche. Elle n'est pas à niveau. Elle n'est pas aux équerres. Elle tient par un fil après le mur. Tu te colles sur le mur. Puis tu vois là, que il y a un coin. C'est ça. Le bas, il est totalement 90 degrés. Puis plus tu montes, là, plus tu sais pas où est-ce que ça s'en va.
Exactement. Donc, c'est pour rappeler ceux qui n'ont pas écouté l'émission, ce qu'on a parlé plus tôt cet été, c'est effectivement un musée. Qui s'appelle The Museum of Bad Art, qui nous vient de Boston aux États-Unis, et qui est comme en visite à Québec. Donc, il y a une exposition qui est comme un peu une sélection spéciale des mauvaises pièces
d'art visuel. Un best-of du plus mauvais, exactement.
Exactement. Donc, le concept, c'est que c'est des pièces, des œuvres d'art, des toiles, qui ont été pour la plupart récoltées dans les poubelles. Ou dans... je pense que c'est surtout ça, dans les poubelles.
Poubelles, dans des encans, des sous-sols d'église, brocantes, au thrift store, au magasin. C'est ça.
Et c'est donc des œuvres que... c'est ça. Donc, les gens se sont débarrassés, peut-être les artistes eux-mêmes. Et donc, ça a été ramassé, collectionné par des gens qui en ont fait une
collection.
Une sélection spéciale.
Oui.
et qu'ils exposent et qu'on peut voir à Québec gratuitement. Et c'est vraiment des pièces, ça va dans tous les sens. Il y a, c'est surtout figuratif, il y a très peu d'abstrait.
Ouais.
Et il y a des pièces qui sont quand même très bien exécutées, même si c'est pas beau.
Ouais.
Il y a des pièces qu'on ne comprend absolument rien. Il y a comme une symbolique très étrange.
Le narratif est bizarre. Hein?
Et d'autres qui sont très, très claires, mais qui sont juste « weird ». Comme, bon, c'est ça, t'as nommé ça. Moi, c'est lui qui m'avait frappé, c'était celui d'un portrait d'une espèce de poupée, bébé poupée, comme un gros plan sur une face de bébé poupée, avec en arrière-plan un genre de Pierre-Éliott Trudeau puis un drapeau du Canada.
Ouais, très
mais,
weird.
Très réaliste aussi, c'était quand même bien fait, mais c'est incompréhensible.
Ouais.
Vraiment, on comprend rien. On se pose juste 20 000 questions. Puis, ce qui est très bon aussi, c'est les petites fiches descriptives qui viennent avec chaque toile.
Oui, qui sont traduites. Il y a une partie en anglais, comme que c'est supposé, et il y a la traduction. Il faut lire les deux. C'est un complément. Il faut vraiment, ça apporte un plus. Soit ça nous met plus dans le néant, ou soit ça nous éclaire notre lanterne. Mais il y a une complicité entre la toile et le petit carton, et c'est souvent fort rigolo. Il y a une toile très bizarre qui est un couple qui prend sa douche ou son bain, ou il sort du bain, parce que c'est en toilette, avec le chien qui est tout heureux, et c'est très freak.
OK. Je me souviens pas de celle-là.
Ouais, il y a des affaires très, 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 très freak. On s'est bien bidonné. Il y avait beaucoup de monde qui sont allés voir cette exposition-là la journée qu'on est allé. Et j'ai parlé avec une des personnes de Passage Insolite, qui est un organisme de Québec qui fait des installations partout là, dans le vieux Québec ou autour des galeries. Là. Cette année, la plus grande pièce, c'est comme on avait déjà parlé, mais c'est comme des molécules qui partent. À peu près d'un 12e étage d'un édifice et qui descendent jusqu'au 3e étage. Et c'est tout attaché après l'espèce d'escalier de secours, là, comme les escaliers de secours qu'il y a à New York là, dans les films. Fait que il y a des choses très intrigantes. Et cette personne-là m'expliquait que c'est une gang de Boston qui se réunissait puis qui décidait de faire des expositions de leurs trouvailles un peu partout, des fois dans un sol d'un ami, des fois dans un party, des fois dans la brasserie du coin, mais tu sais, pas la brasserie hipster, mais la brasserie un peu low profile,
taverne. Là, tu sais,
taverne, pilier de taverne, et des fois même dans des cours à scrap, n'importe où, pourvu que ça soit inusité, rien de formel. Et elle me disait qu'ils sont rendus à environ 800 pièces.
OK.
Et cette année, ils sont en train, je ne sais pas s'il est ouvert ou il va ouvrir, mais ils vont avoir quelque chose de permanent au moins pour l'année. Ou est-ce qu'ils vont exposer des pièces qui ne sont pas parties un peu à l'étranger? Parce que je pense qu'il n'y avait pas, de la manière que j'ai compris ça, il n'y a pas juste Québec qui a de ces pièces-là, du bad art. Là.
D'accord.
Du bad art, moi, je trouve un petit côté, si vous connaissez le magazine British Raw Art, qui est de l'art fait par des gens en hôpital psychiatrique ou des gens qui étaient un peu loner et qui partent sur un trip et ils dessinent sans arrêt ou ils font de la peinture, le même sujet comme, admettons, quelqu'un trip sur son chat, ben il va faire 400 toiles du même chat, mais avec des backgrounds différents. Tu sais, du monde là, qui ont des visions, raw vision, ça le dit. Regardez ce magazine-là, il l'a même online. Et c'est ça, c'est... Pour moi, c'est comme une continuité de ça, dans le sens que c'est des gens qui ont essayé de faire de l'art. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est moins réussi. Je ne sais pas si je te l'avais dit, des fois, on se parle, mais là, on est au micro, fait que je vais le répéter, je m'excuse si on se répète. C'est qu'il y a un des artistes qui a vu sa toile et qui s'est fait photographier, ils ont un compte Instagram, et il a avoué sa paternité à une des premières toiles qu'il avait fait. Il pensait l'avoir donnée ou jetée, et elle s'est retrouvée dans cette collection-là. Fait que des fois, les artistes sont flattés, des fois insultés, Des fois, ils veulent rien savoir. Lui, ouais. il l'a avoué. Et c'est un artiste qui vit de son art. C'est un artiste professionnel maintenant. Il dit, ben oui, j'ai commencé comme tout le monde à quelque part. Puis, je savais pas mes... C'est comme quelqu'un qui sait pas ses gammes. Ben, je savais pas mes couleurs chromatiques. Ou, tu sais, je savais pas... Je voulais pas faire telle affaire. Mais il dit, regarde, c'est moi qui l'ai fait. Je l'avoue.
C'est bon, ça.
Fait que ça a été très, très rigolo. Fait que j'en ai appris beaucoup. Les gens de l'organisation Passage Insolite là, sont fort sympathiques, là, sont très généreux là, de leur temps et de leurs explications. Fait que c'était bien mis le fun. Fait que je te remercie, Nelson. Je remercie Passage Insolite.
C'était vraiment, pour ma part, c'était un accident de parcours. Là. C'était
un bel accident.
J'étais à Québec pour d'autres raisons et je suis tombé là-dessus un peu par hasard.
Puis c'est rare parce que c'est dans un endroit, on va se le dire, un petit peu, excusez, là, mais un petit peu pour les touristes. C'est beaucoup de choses.
Pas un petit peu, c'est clairement
c'est ça.
Oh, oui, mais
fait
oui.
de trouver quelque chose de, on va dire, off the record, là, quelque chose de complètement à gauche, là, complètement décalé. Le monde rentrait là curieux, autant les touristes que les natifs de Québec. Et tout le monde en a, tout le monde riait. Tu peux pas... Et c'est ça qui est le fun de cette exposition-là. Tu peux te bidonner, tu peux critiquer l'œuvre et il n'y a personne qui va être offusqué.
Puis c'est ça, comme tu le dis, c'est que c'est dans un secteur très touristique. Autour de cette expo-là, on peut facilement trouver toutes les boutiques touristiques où ils vendent des toiles d'ours polaires puis de trucs attrape-touristes, là. Donc des classiques qu'on peut voir partout.
Québec, Canada.
Exactement. Donc, puis là, on arrive là avec des trucs vraiment inusités. Puis ce qui est particulier, comme tu mentionnais, c'est que la plupart des œuvres qui sont exposées là, on ne connaît pas l'artiste, puisque c'est des pièces qui ont été trouvées dans les poubelles. Alors, on n'a aucune idée de qui a fait quoi, mais ils sont quand même exposés. Donc, puis c'est des interprétations libres, les petites fiches descriptives, là, c'est vraiment juste qu'est-ce qu'on pense que ça peut être, qu'est-ce que ça peut signifier. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'un artiste ait quand même décidé de s'afficher comme étant le signateur de...
Je vais aller consulter leur Instagram. Je suis très curieux de m'abonner à ce compte-là, juste pour voir les nouvelles trouvailles qu'ils font. Je pense qu'ils en font constamment, là, je veux dire.
Ouais. Puis ça fait du bien de voir des trucs qui sont pas nécessairement ratés, dans le sens au niveau formel, tu sais, dans le sens que c'est pas mal exécuté, mais c'est au niveau du message, tu sais, du propos que...
Qui peut être ambigu.
C'est totalement... c'est incompréhensible. C'est très... dans le weird du weird, là. Ouais. Puis ça fait du bien quand même, parce que on n'a pas toutes les réponses. Il y a vraiment du vrai mystère, là, tu sais. Du gros mystère.
Du gros mystère. Allez-y en grand nombre. Allez-y en famille. Si vos enfants sont un petit peu plus vieux, il n'y a rien de
non,
très
ouais, c'est
choquant.
Pas c'est vraiment moi. À tous. Ouais.
Mais allez-y et libre à vous votre propre interprétation. Et je vous garantis que vous allez vous bidonner ou argent remis. C'est gratuit. Fait qu'allez-y, allez-y. Puis bravo. À chaque fois que je vais à Québec, Passage Insolite. Il y a 2 ans, je pense que c'était une voiture renversée avec du gazon qui poussait dessus dans le plein milieu du petit Champlain à côté là, de la fameuse église. Là. Fait que c'est, il y a tout le temps quelque chose de crackpot avec eux autres là, au point de vue. Puis il y avait un funambule aussi que les gens pensaient que c'est un vrai funambule, mais c'était un mannequin, mais c'était tellement un peu loin, un peu bizarre qu'on se disait « il bouge-tu? » Puis ça bougeait un peu à cause du vent, à cause de la corde. Fait qu'on savait pas « est-ce tu... » Fait que pendant un 30 secondes, les gens se questionnent « est-ce une vraie personne? »
OK.
Mais ce n'était pas une...
C'est un mannequin.
C'est un mannequin.
OK. Mais
bravo.
Okay.
Félicitations. Une autre chose à Québec qui est nouveau, qui est fascinant, chapeau, ça s'appelle Musée Dark Art. C'est sur la rue des Navigateurs. Fait que c'est tout près là, de où est-ce que toutes les belles boutiques, les belles galeries. C'est au 20... je sais pas, il est marqué 20-101 rue des Navigateurs. Sinon, vous pouvez aller là, sur leur Facebook qui est Musée Dark Art en un mot, ou sur leur Instagram, musée_darkart. Et le mot le dit, c'est de l'art, on va dire...
Sombre,
macabre.
Macabre.
Et j'ai adoré, et c'est très cool. Je suis rentré dans la boutique, et là, on nous explique qu'est-ce qu'on va voir. C'est comme une chambre, une avant-chambre, comment je comprends dire
un
ça?
Un vestibule.
Ou un vestibule.
Un antichambre.
Un antichambre, merci. C'est un antichambre et là, il y a des objets, des stickers, des tasses, des choses pour encourager la galerie à continuer. Et là, si on, il y a des frais à payer, mais ça vaut le détour, ça aussi. Dites que vous n'avez pas, tu sais, vous n'avez pas payé pour voir Bad Art et celle-là, vous allez payer. Fait que ça compense.
OK, oui.
Ça compense amplement. Et là, en payant, par exemple, vous n'avez pas le droit, quand vous entrez, vous rentrez dans une chambre noire, vous n'avez pas le droit de prendre de photos.
OK.
Puis il y a des caméras partout. Fait que si tu prends une photo, j'imagine que tu te fais sortir. Et c'est correct. C'est des artistes, la plupart québécois, montréalais, du Québec, peut-être un petit peu du Canada, peut-être un des États-Unis. On a de la photo, on a de la sculpture, on a des installations, on a de l'aérographie, du airbrush, on a de la peinture, on a du dessin, on a tout ça.
OK.
Et là, si je peux vous dire juste la pointe de l'iceberg, pensez à H.R. Giger, le grand maître du dark art, celui qui a créé les bébites dans Alien, celui qui a fait des pochettes pour des groupes comme Emerson, Lake and Palmer, comme Celtic Frost, tout ça. Fait que c'est cet univers-là, un univers dark. Soit la toile, là, le background est noir et la lumière apparaît.
OK.
Et là, moi, j'étais très content de voir des pièces que je n'avais jamais vues de mon homeboy Jean-Michel Cholette.
Il y avait homeboy?
Mon homeboy, mon homie, mon chum qui joue dans Revelation Zero, dans son propre groupe Growing Concern, tout ça, dans d'autres groupes aussi. Un chic type qui joue de l'accordéon, qui joue de la basse. Qui est devenu grand-père. Félicitations, t'es grand-père, wow. Mais ça ne paraît pas. C'est une bête de scène. Et Jean-Michel Cholette fait, en plus de faire des installations, des sculptures, fait surtout du airbrush très dark. J'ai une de ses cartes entre mes mains. Et c'était la première fois que je voyais, si vous avez lu le livre de Patrick Sénécal, Fin, F-A-I-M-S, je crois, c'est lui qui a fait la pochette de de la couverture du livre.
Wow.
Et moi, je n'avais jamais vu la pièce originale qui est là, qui est un peut-être 3 par 4, même plus, peut-être 4 par 6. C'est immense et c'est cette pièce-là. 4 pieds par 6 pieds.
6 pieds, wow.
Ouais, c'est un gros morceau. Il y avait d'autres pièces de lui. Jean-Michel fait tout le temps des grosses pièces. Et c'est la première fois que je la voyais en personne, elle est impressionnante. Il y a d'autres mondes aussi qui font des dessins, des installations super intéressantes, dont je crois il y avait un artiste sculpteur qui s'appelle Anctil, mais A-N-K-T-I-L. Fait que je ne sais pas si pour Anctil, il a fait un jeu de mots. Habituellement, ça s'écrit avec un C. Et il y a surtout le photographe, je pense que c'est lui qui m'a accueilli, c'est M. Patrick Gendron, mais si ce n'est pas lui, je le salue quand même. Des photos très post-apocalyptiques,
okay.
Très aussi dark, là, une espèce de personnage un peu Grim Reaper, un peu la faucheuse dans une espèce de toge noire avec un masque blanc, avec un long nez, un peu comme qu'il y avait dans le temps de la peste noire.
OK, oui.
Les masques, là, tout ça. Des barils de BPC avec des paysages avec de la neige puis un espèce de fond gris. C'est quelque chose de très industriel, très lourd. Il me disait, concernant des photos que j'avais bien aimées, il y avait une espèce de Santa Maria, une espèce de Sainte Vierge un peu mexicaine, qui son maquillage noir coulait, fait que ça faisait encore plus dark, tu sais, qui coulissait, avec une auréole noire au lieu d'être dorée. Il me disait, moi je ne connais pas la lutte ou la boxe féminine, il me disait que la modèle, c'était une des tops au Québec en combat art martial puis tout ça.
Ah ouais?
Je pourrais pas vous dire le nom, mais super, une présence, un regard très charismatique, et elle se prête au jeu du photographe, à la, à la, moi, je dis à la barbouiller, à la maquiller, à la mettre dans des situations bizarres, dans des endroits où est-ce qu'il y a du goudron, des choses qui sont toutes tombées, tout ça. Fait que c'est super intéressante, les photos. Et qu'est-ce qui est le fun là-bas? On peut s'acheter une casquette, une tasse, si on aimait ça, pour les encourager. Et moi, j'étais un gros fan de stickers, fait que je me suis ramené. S'il y avait une patch, je m'aurais ramené une patch, parce qu'il y a un petit côté, tu sais, ça fait musée Dark Art, ça fait un petit côté pentagramme, un peu.
Ouais. Rouge et sur noir, rouge avec sur l'étoile. Noir,
exactement. Et là, j'ai un autre sticker de photo, tu sais, qui fait un masque un peu à Leatherface avec des chaînes.
Film au lieu
d'horreur,
d'être
des cheveux. Ouais, film d'horreur. Si vous aimez les films d'horreur, vous allez aimer ça.
C'est vraiment ça. Hein? En fait, parce que quand tu dis dark art,
ouais.
Je peux m'imaginer quelque chose, mais qu'est-ce qui... Dans le fond, qu'est-ce qui motive cette exposition? C'est un musée, en fait?
C'est un musée. Ben, c'est de pousser les limites, je dirais, pas nécessairement du bon goût, mais les limites de l'acceptable et du non-acceptable. Là, on retourne, on fait un callback, on fait un retour à un peu ce que j'avais expliqué à la lecture du livre de Rémy Couture et un peu au film de Rémy Couture qui fait des maquillages pour les films d'horreur, jusqu'où on peut aller. Dans la c'est de l'art, jusqu'où on peut aller dans la littérature fantastique, horrifique, dans la musique, où est-ce qu'on peut aller avec les Cannibal Corpse, les Deicide, tous ces groupes-là, et aussi dans la photo, dans la peinture. Depuis le début des temps, l'art a tout le temps une fascination pour le macabre.
L'obscur.
Tu sais, depuis H.P. Lovecraft, même... le de Raven, le corbeau de... je vais te dire l'auteur, j'ai un petit blanc. J'aimerais pas avoir un blanc pour cet auteur-là, mais vous savez de qui je parle.
Stephen King ou...
Non, plus vieux que ça encore. Edgar Allan Poe.
Ah, OK. Ouais,
j'étais loin, j'étais plus loin. Ouais.
Je suis ignore.
Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire, si vous aimez l'horreur, si vous aimez être surpris... Si vous aimez les têtes de mort, si vous aimez les films d'horreur, vous allez être servi avec ce musée. Allez-en en grand nombre, n'attendez pas. Allez au musée Dark Art parce qu'ils sont dans un endroit que j'imagine, c'est pour ça qu'ils font payer un prix d'entrée, c'est que c'est un endroit, tu sais, c'est dans le vieux Québec, et imaginez le vieux Montréal, c'est la même chose. C'est des. Au pied carré, là, c'est ce locatif-là doit être très dispendieux.
Ouais.
Fait qu'il faut qu'il y ait des entrées d'argent, il faut qu'il y ait des ventes, tout ça. Fait que tu peux acheter des pièces si tu en as les moyens.
OK.
Ouais, il y a des pièces qui sont à vendre. Il y a d'autres pièces, j'imagine, qui sont not for sale, là, qui sont pas à vendre. Mais si vous avez les moyens, il y a des pièces. Mais faut avoir la maison, tu sais, faut avoir la mansion qui va ouais. avec. Je vois pas c'est ça dans mon pas, petit bungalow, dans ton condo à...
C'est pas de la petite déco légère.
Non.
Avec une cuisine style Ricardo.
Non.
Ouais, tout est blanc trois fois par jour.
Exactement.
On met pas une pièce de Dark Art.
Non.
D'art obscur. Mais ben, je trouve ça vraiment cool que
le
musée existe en soi, dans le sens de penser à réunir tous ces différents artistes-là qui ont un point commun qui est une fascination pour le côté obscur des choses.
Oui.
Ben, c'est vraiment cool ça parce que, tu sais. C'est le genre de choses qu'on peut voir un peu de façon disparate, mais réunies dans un même endroit.
Exact.
C'est quand même intéressant.
Ouais, c'est pour. C'est ça. Ça, c'est peut-être plus pour un public averti, par exemple.
OK.
Ouais.
Il y a un peu de gore.
Il y a un peu de gore, okay. Il y a un peu de nudité. Ouais, c'est. Puis la pièce est noire. Là. Tu rentres là, dans l'antichambre, c'est normal. Mais là, quand tu rentres dans l'autre pièce, c'est dark. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien. Là.
Un peu comme une maison hantée?
Oui, c'est un escape room. Nous, on s'en est sauvés. On va y aller en musique avec un collectif de MTL 514.
We'll be right back. attraper le temps qui nous file entre les doigts. Et de temps en temps, on arrive à le rattraper.
Full center.
Et de temps en temps, on perd. De temps en temps, on gagne. Mais l'important surtout, c'est de jamais abandonner.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avant la pause, on écoutait une pièce du groupe Collectivo.
Sur l'album Jaune électrique, la pièce Les poules.
Les poules.
Oui, les poules.
Cocorico! Cocorico, c'est les coques.
Ouais,
les poules font... Et qu'est-ce qu'on a à dire sur Collectivo? On les a vus en spectacle plusieurs fois.
À maintes reprises, ensemble ou séparément. Parce que chaque membre joue dans différentes formations.
Oui.
On s'ennuie, on leur souhaite, je sais pas, s'ils sont à pause, sont en hibernation, mais je pense qu'ils sont dus pour un nouvel album. Ce dernier, ça, c'est vraiment le dernier, paru sur Slam Disc en 2013. Fait que je pense que vous êtes dus. Nous, on est dus. En tout cas, on aime ça, du ska, du reggae, l'été. Moi, j'aime ça, j'en redemande. C'est peut-être pas le son actuel. C'est sûr que là, tu sais, à Québec, quand j'allais au FEC, j'allais voir Fouki, j'allais voir Corias, c'est le hip-hop. Mais le hip-hop, ça fait 15 ans que j'en écoute. C'est pas, on peut écouter de tout. Je veux dire, c'est pas comme « Ah, c'est la saveur du mois ». Ben oui, c'est vous autres qui n'étaient pas accordés au diapason de la musique actuelle que les jeunes aiment. Et les moins jeunes du rap, c'est pas d'hier qu'on en écoute. Mais on va en écouter encore demain. Même quand ça sera pas à mode, on va en écouter encore. Public Enemy va être encore là. Cypress Hill, on va encore en écouter.
Ben oui.
De La Soul, on va encore en écouter.
Il y a des classiques comme ça, comme dans le classic rock.
Exactement.
Il y a des classiques du rap,
exact.
Du hip-hop. Mais qu'est-ce que tu veux, Marc-André? C'est comme ça que les choses évoluent. Il y a de la nouvelle musique, puis...
Oui, ben non, j'ai rien contre.
Il y a des plus vieux qui vont dire « Ah, dans mon temps, c'était meilleur, puis... »
Non, non, mais moi, c'est que... Tu sais que, on va en mettre dans la programmation. Vous auriez dû en mettre « Since Day One ». C'est pas d'hier.
Ah, mais ça...
Ouais,
c'est notre.
Ils sont frileux, mais là, ils se défrilent. Ouais. Se défrilent, ça n'existe pas, mais je viens de l'inventer, le mot de la journée.
Ouais.
Fait qu'on souhaite ça, on souhaite du collectivo, on souhaite de la musique du soleil qui est dans la même onde, qui est des fils et des filles spirituelles du grand, de l'unique, de la Mano Negra. On veut revoir Manu Chao sur les plaines d'Abraham ou à Montréal. À n'importe où, Oshiaga, name it, on veut le voir.
Manu Chao à Oshiaga.
Ça n'a aucun rapport.
Ça serait très inusité.
Oui. Non, mais je veux dire, mais au moins au
Parc Jean-Drapeau.
Au Parc Jean-Drapeau, oui. Dans une scène extérieure à MTL.
Oui.
Ou n'importe où au Québec. Hey, faites des lectures d'été, des romans, tout ça. Moi, l'été, habituellement, je lis des San Antonio. Et cet été, j'en ai pas lu un encore. Je suis en retard. San Antonio, pour moi, c'est les petits harlequins que les filles ou les petits romans d'amour que les filles lisent là, sur la plage ou dans une chaise longue à côté de la piscine. Moi, c'est des San Antonio. J'en ai pas lu un encore et je suis en manque. Fait que je vous souhaite des bonnes lectures, des bons trailers. Lisez ce que vous voulez. Mais il y a aussi des films. Et en parlant de films, je ne parlais pas du nouveau Minion que j'ai été obligé de voir avec ma fille. Mais que j'ai quand même aimé. Je dois dire que je suis bon public pour ce genre de petit cartoon. Mais c'est un film plutôt sur l'adolescence, sur devenir un adulte.
Oui.
Le changement, autant interne, externe, de la vie. Ouais. Et ça s'appelle Licorice Pizza. La pizza à la réglisse noire.
À la... Ouais, licorice, c'est... Ouais.
C'est de la nette, là, tu sais.
L'anis.
L'anis, ouais.
Mm-hmm.
Tu sais, les affaires comme dans Sambuca ou dans... Les affaires que j'aime pas.
Du riz, pastis. Ouais. De l'anis.
Bon déjeuner, tout le monde. C'est bon, un shooter de ça avec un... Vous mettez un grain de café, vous le flambez et vous le calez. C'est et là, vous êtes parti pour la journée. Là, vous pas... C'est un espresso Sambuca.
L'été, du bon Ricard sur glace.
Sambuca.
Très
non,
bon.
Moi, de la réglisse, je ne suis pas capable.
Ah non?
Non.
Ah, OK.
Désolé. Fait que je viens de me couper la moitié de notre auditoire qui était 5 personnes. Fait que là, on a 2 personnes et demie qui nous écoutent.
Non, on ne parle pas de boisson, on parle de pizza.
Non, on parle de pizza.
D'un film de quel réalisateur?
Le grand, le seul, l'unique qui a écrit et réalisé Paul Thomas Anderson.
P.T. Anderson.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Mon Dieu Seigneur. Punch Drunk Love.
Premier, ouais.
Avec Adam Sandler.
Yes.
J'ai aucune idée. Je n'ai pas Wikipédia devant moi.
Tu sais,
je veux pas tricher.
Tu sais, en Inde, là, y a l'histoire en train là, des trois frères. Là,
non, ça, c'est pas P.T. Anderson. Ça, c'est Wes Anderson.
Ah, OK. C'est son frère?
Je pense que non.
OK.
Sûrement pas, en fait.
OK. Fait qu'on vous induit en erreur. On dit que
non,
des
c'est pas lui.
Ce matin. Non?
C'est pas Wes Anderson. C'est P.T. Anderson. Gars, si tu me donnes 2 minutes, je vais sortir mon téléphone puis je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre pendant que tu parles de Licorice Pizza.
Moi, pendant ce temps-là, vu que c'est écrit trop petit et j'ai pas mis le net, comme d'habitude, en gros, c'est le récit qui se passe en 1973 dans la vallée de San Fernando. Ça, c'est en Californie. Il y a des jeunes qui vivent quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? Ben, ils vivent leur jeunesse, leurs frasques et leurs amours. Fait que c'est un film vraiment cool qui a gagné supposément Best Picture, Best Directeur, Best Breakthrough Performance.
Ah oui?
Moi, c'est pas pour ça que je vous en parle. Moi, je vous en parle parce que j'aime les films d'époque. J'ai un petit côté nostalgique des années 70. La musique est sur la coche. Mais tu as des apparitions. Je pourrais même appeler ça des caméos. Des caméos, là, c'est comme... Hein, on reconnaît un acteur qui vient juste faire un passage. Fait que c'est des caméos plus... Parce qu'ils ont un petit rôle, on va dire, c'est pas juste un caméo. T'as Sean Penn, t'as Tom Waits, le grand, l'unique musicien, Tom Waits.
C'est rare.
Égal à lui-même.
Ouais.
Qui fait un personnage hallucinant. Et t'as Bradley Cooper, qui est méconnaissable et détestable.
OK.
Fait que je sais pas s'il y avait un rôle de composition ou non, mais il est sa coche là-dedans.
OK.
Puis il est qu'un de nos 2 petits jeunes. Fait que t'as, le film tourne autour de Alana Haim. Là, ça, c'est l'actrice, c'est la personnage centrale. Et le titre, là, ça n'a rien rapport. Il n'y a pas une pizzeria, il n'y a pas quelqu'un qui trippe sur la réglisse noire. Fouille-moi. Ça vient d'un roman. C'était adapté d'un roman
okay.
qui a eu du succès. Moi, je trouve que c'est un tu sais, becoming of age, là. C'est un ouais. kind of movie, you know what ouais. I mean, my
yes,
friend?
Yes, I understand.
Fait que c'est ça. Et l'actrice, il paraît que l'actrice, justement, Alana Haim, et pas Alanis Morissette, avec ça, elle vient de se faire découvrir, là, puis elle se fait offrir tous les rôles. Elle est bonne là-dedans, elle est très bonne. Mais OK, j'essaie de comprendre. Et le film est très bon, okay. soit dit en passant.
Oui, oui.
Et faut pas nécessairement l'écouter avec une adolescente, même si c'est un film ouais. d'un univers adolescent.
C'est plus pour adultes, peut-être?
C'est ouais, plus pour adultes, mais ma fille l'a vu, puis a compris ce qu'elle a compris. Puis moi, j'ai compris des affaires qu'elle ne ah. devrait pas comprendre.
OK. Genre.
Mais juste pour Tom Waits qui joue...
Hey boy, lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un ouais, film. Hein?
Exactement.
Moi, je me souviens pas. Moi, je me souviens d'avoir vu un film...
de Jim Jarmusch.
Ah, OK. Ouais, ouais moi, dans les années 90, il y avait un film de... Comment il s'appelle, non? Robert Altman, avec plein d'acteurs. Il y a comme 20 personnages,
ouais,
là.
Tout le monde là-dedans.
Ouais.
Sur la mode, c'est
Shortcuts.
Shortcuts, ouais.
Je pense.
Ouais, où il y en avait un sur la mode aussi, la haute mode, ah, aussi, ouais. je faisais un caméo. Mais moi, je le reconnaissais plus de... Mais à passer à la musique, là, mais moi, je l'associais plus avec Jim Jarmusch, avec ouais. Don Byla,
ouais,
qui
ouais.
faisait un prisonnier avec... Roberto Benigni, Roberto
Bellini, Benigni,
l'Italien, là, ouais, très ouais, connu. Ouais.
Pinocchio.
Puis Pinocchio. Hey, en parlant de Pinocchio, parenthèse.
Ah, parenthèse.
Cet acteur-là avait fait Pinocchio, tu t'en souviens? Il avait, ouais. fait, il avait joué le rôle de Pinocchio, la petite marionnette ouais. de bois. C'était lui, ouais. même s'il avait 40 ans. Là, on parle de la belle, la vida est belle, tu sais, la ouais. vie est belle, tu sais.
Ouais.
Tout le monde le grand hit. Cet acteur-là, réalisateur, vient de refaire un Pinocchio. Là, on
c'est
est
vrai.
Rendu à je ne sais pas combien de versions de Pinocchio. Il y en a même une autre qui sort d'un autre réalisateur, mais ça, on ne rentrera pas là. Là, cette fois-ci, Roberto joue Geppetto.
Ouais, puis ça a l'air vraiment mieux que l'autre. J'ai pas vu ni un ni l'autre.
Mais come on, là, il y a une fixation. Là, il reste juste à jouer la fée puis Jiminy Cricket. Puis là, il a fait tous les personnages.
Mais c'est j'ai eu la même j'étais perplexe en voyant la bande-annonce, je dis mais c'est pas quelque chose qu'il avait déjà fait.
Ouais.
Mais là pour une raison qu'on ignore, il a décidé de refaire Pinocchio. Mais fixation. Honnêtement, en voyant la bande-annonce, ça va l'air beaucoup mieux.
OK.
Ça va l'air presque bon.
Fixation pareil ouais. sur le personnage où on est. Pourquoi je parle
fin de
la
lui? Parenthèse.
Fin de la parenthèse et je referme la parenthèse.
Licorice
de Tom Waits.
Pizza.
Licorice Pizza, je vous en dis pas plus. Écoutez-le c'est aussi le. Moi, je trouve que c'est peut-être moi qui étais nostalgique. Il y a un côté, c'est la désillusion de le rêve américain, d'une okay. certaine façon.
Ah, OK.
Avec un des personnages. Fait que j'en dis pas plus, mais c'est à regarder.
Ça se passe dans les années.
70.
Ah.
73, très beau cru, année de. D'une fête très importante. Fait que c'est ça. Je vous recommande ce Paul Thomas Anderson.
Et on cherchait qu'est-ce qu'il a fait d'autre.
Oui.
J'ai sorti mon téléphone.
Oh,
j'ai triché cette fois-ci.
Oui, il faut.
Donc, on connaît Paul Thomas Anderson comme scénariste, réalisateur pour les films comme There Will Be Blood, Magnolia, Boogie Nights, Phantom Thread, Punch Drunk Love,
son premier, ouais.
Hard Eight, Anima, Coffee and Cigarettes, etc. etc.
Ah, Coffee and Cigarettes, parce que Jim Jarmusch est dedans aussi.
Donc là, attends, ben, je sais qu'il l'a pas réalisé. Oui, il l'a réalisé.
OK.
Et oui, c'est peut-être même... Hey,
c'est des classiques, le Magnolia. Là, OK. Je sais c'est qui. Je sais de qui qu'on parle. Je
ouais.
sais c'est qui le réalisateur que je tiens entre mes mains sur Blu-ray. Quoi? C'est ça?
Ouais.
Ouais, mais c'est bon, c'est Magnolia. Ouais,
c'est
Magnolia, c'est sa coche, là.
Puis There Will Be Blood,
ah ouais,
ça, c'était
c'est un classique aussi.
Sur les puits de pétrole, puis aussi, c'était un peu la...
Comment il s'appelle le comédien qui se transforme à chaque fois? Là,
Daniel...
Dreyfus. Non, Daniel...
Boy, hey, on n'est pas bien, hein, maintenant?
Non, on n'est pas réveillé.
On n'est pas réveillé.
Café.
Daniel Day-Lewis.
OK, Daniel Day-Lewis.
Dans ce film-là, il y avait aussi... là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film-là, non, mais c'était la chasse au pétrole dans Californie.
Au début du siècle.
Oui, exactement.
L'or noir au lieu d'être l'or or.
Puis il y avait aussi une histoire de nouvelle église, de religion. C'était comme la naissance du mormon, je crois. Où, Bref.
C'était weird.
Il y avait vraiment la religion qui était vraiment un thème principal de ce film-là.
Ces films sont sacoches, mais sont toujours un petit peu bizarres. Bizarre. Mais celui-là, il est peut-être un peu plus accessible, mais il y a un personnage aussi masculin, là, le jeune garçon qui court un petit peu après le personnage là, d'Alana. Très charismatique lui aussi, et c'est comme un jeune entrepreneur, et c'est comme tout est possible. C'est comme dans l'Amérique, tout est possible. Tu veux te partir, tu es un jeune entrepreneur, là, je veux partir une arcade, je veux partir une pinball machine, je veux inventer de quoi, c'était possible.
Ouais.
Aujourd'hui, on dirait que tout est plus difficile, mais dans ce temps-là, tu avais un rêve, tu avais une idée de fou, les Lido. Il y a une scène de Lido là-dedans. Qui vendent des Lido, qui inventent, qui veulent développer le marché des Lido. Puis c'est le futur qu'il faut que tu dormes sur un Lido. T'en rappelles, c'est tellement 80.
Ouais.
Puis c'était la grosse affaire, puis tu n'auras jamais mal au dos. Puis moi, je connais plus personne qui a
un Lido. Ah non, c'était horrible là, quand tu dormais là-dessus. Ouais. J'ai déjà.
T'as le mal de mer. Toi qui as le mal de mer, ça te prendrait des gravoles pour te coucher.
Quand tu bougeais là-dessus, veux pas, tu créais des vagues. Ouais. L'eau bougeait. Fait que tu bougeais, tu changeais de bord, puis le lit bougeait pendant 2 minutes. Là.
Et ça perçait. Le monde qui disait que ça perçait pas, ça l'a déjà percé.
Un sac d'eau.
C'est un gros sac d'eau. C'est un gros mini-site, comme qu'il y avait chez Perrette. Tu sais, t'allais chez Perrette, ça coûtait 10 cents.
Les jus,
chimiques en sucre, pire que Kool-Aid, pour nommer que celui-là. Ils donnaient une petite paille avec un bout de pointu. Puis là, il fallait que tu le plantes dans le milieu. Puis là, tu l'aspirais. Fait que c'était dépanneurs Perrette.
Ça, c'était le bon vieux temps, ça, Marc-André.
Hey, c'était pas cher, les popsicles, les Mr. Freeze Perrette, le lait Perrette. Sur la peine de lait, t'avais Perrette s'en va avec... C'était comme du La Fontaine, c'était comme un poème. Je savais par cœur, mais là, je me rappelle plus.
C'est le bon vieux temps, le film Les Choristes Pizza.
Exactement, c'est la même époque. Fait que si vous avez un brin de nostalgie, écoutez ça. On le voit-tu en musique? On s'en va... En Argentine, et là, c'est pas LFC, c'est pas Los Fabulosos Cadillac, c'est comme leur petit frère, c'est comme leur cousin, ça s'appelle Bersuit Vergabarat, ça vient directement de Buenos Aires, BSAS. Provecho!
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Persigue.
Si tomás y vendés, si fumás y compras un pobre tonto para hacer para comer. Si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares. Porque ese hijo de puta que te caga la pata. En la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce intense de Bersuit. Je ne suis pas capable de prononcer.
Vergabarat.
C'est Bersuit. Dur à dire, hein? OK, je recommence. On vient d'écouter une pièce de Bersuit Vergabarat. Non, je recommence. Une pièce de Bersuit Vergarabat. Vergarabat.
OK.
OK.
On va s'entendre sur ça. On va s'entendre sur.
Ça vient d'Argentine.
Exactement.
De Buenos Aires, tu as mentionné.
Ben oui.
Et c'était la pièce?
C'était la pièce Señor Cobranza.
Donc, c'est pour les gens qui comprennent l'espagnol, c'était comme une espèce de rage,
oui.
D'exutoire. On se défoule, on bâche sur tout ce qui bouge.
Exact.
Et notamment sur la vie des Latinos.
Non, mais c'est surtout sur l'époque qu'il y avait un des plus grands. Tu sais, l'Argentine a connu beaucoup de dictatures, malheureusement. On ne fera pas un cours d'histoire ce matin. Faites vos recherches. Mais ils ont eu, après la dictature, ils ont eu une démocratie, entre guillemets, et ils ont eu un président, un premier ministre qui s'appelait Menem, qui était le plus corrompu des corrompus. Et c'est cette époque-là, et les Bersuit s'en donnent à cœur joie de le dénoncer, de le critiquer, de l'envoyer se faire promener. Et c'est un peu ça que ça raconte, l'histoire de toute la corruption, de qu'est-ce qui se passe, puis comment que ça va tout croche. Et eux, je pense que ça leur faisait pas peur, les desaparecidos, là, les disparus, parce qu'ils en ont connu leurs oncles, leur famille, fait que... Il y a comme une génération qui n'en avait plus rien. Oui, ils ont peur et tout, mais regarde.
Ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont plus rien à perdre. Puis l'Argentine, souvent, n'a plus rien à perdre parce qu'ils ont tout perdu, comme le crash des années 2000, avec la dévaluation de leur monnaie. Moi, une des dernières fois ou avant-dernière fois que je suis allé en Argentine, puis même au Brésil, première fois au Brésil, par exemple, c'est que le reais du Brésil était l'équivalent. Il était de pair avec le dollar américain. Fait qu'un reais brésilien valait un US, qui est énorme. La monnaie était surévaluée. Fait que c'était capoté. Et les Argentins, avec le peso argentin, à cette époque-là, un peu avant la crise, même chose. Et le monde vivait. Moi, j'avais jamais vu du monde. J'ai eu des fréquentations, des amis là-bas. J'ai vécu là-bas. Le monde vivait au-dessus de leurs moyens. Je connaissais des gens qui travaillaient à la banque. Qui de mieux placé que quelqu'un qui travaille à la banque. Et après la job, ils vont prendre un petit café, une petite bière, un petit restaurant. Ça coûte énormément quand même de sous à la longue. Et ils payent ça sur leur crédit. Et quand la carte de crédit arrive à la fin du mois, ils ne l'éclairent pas. Bien, comme du monde ici ou à Montréal puis aux États-Unis, partout ailleurs. mais eux, ils payent que, le 18%. Ils payent que l'intérêt. Les intérêts. Mais les intérêts, déjà là-bas, je pense à 18% et 22%, je me souviens bien.
Ouais.
Et j'avais jamais vu autant de monde, mais là, j'avais découvert après. C'est qu'ils sont souvent dans des cafés, ils parlent au téléphone. Puis là, on parle des années 2000, là. Puis les lignes téléphoniques, c'était cher pour du cellulaire, surtout là-bas à ce moment-là. Et les gens, des fois, ne parlaient même pas. Ils parlaient, mais il y avait aucune conversation. C'est juste pour montrer que...
Il y a un cellulaire.
Puis aller prendre le petit cafécito,
On a vu ça ici aussi, hein?
On voit ça aussi, mais c'est pas ça que ça a crashé quand même en Argentine. Je voyais le monde vivre au-dessus de leurs moyens.
OK.
Puis c'est ça que ça raconte un peu.
Ouais.
L'album de Bersuit s'appelle Libertinage. Le libertinage.
Oui.
Et là, on aime ça critiquer les pochettes puis le bad art. Et là, je dois avouer que la musique, cet album-là, il est solide. Il n'y a pas trop de filler. C'est paru sur un gros label, là, c'est Surco, mais c'est Universal. Là. C'est Universal qui est derrière ça pour la distribution. Et tu as un masque, tu as un bonhomme que je sais même pas, ça ne sent pas un Eminem, mais Menem, leur premier ministre, et un espèce en papier mâché dans de l'eau et un ciel bleu, et une espèce de corps de femme qui n'a pas de tête, qui est en papier mâché, qui est tout laid, tout mal fait.
Ouais.
Et à l'endo, tu as l'espèce de personnage andin qui est comme une espèce de dragon avec une main, qui est comme une espèce de petite statuette. Fait que c'est un peu tout croche, mais l'album est solide. Je vous le recommande. Super bon groupe argentin. Et en parlant de l'Argentine, vite, on s'en va. Je vous parle souvent de bande dessinée, mais il y a beaucoup d'artistes, dont le grand, l'unique Botero. Et moi, ce que j'aime, il y a une compagnie qui s'appelle Taschen, T-A-S-C-H-E-N. C'est sûr que vous en avez vu. Ils ont tous les artistes inimaginables possibles. René Magritte, Dali, Botero, Keith, Pollock, name it, ils sont sur ça. Fait que quand tu veux te familiariser par les images et un peu l'histoire de l'artiste, t'achètes un de leurs livres. Il peut être traduit dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, tout ça. Et t'as un aperçu assez général et souvent assez complet d'un artiste. Botero, on le connaît, c'est un peintre colombien qui fait des personnages plus grands que nature, assez rondelets, assez enveloppés. Il a fait des grandes statues noires qui se retrouvent à travers le monde. Et il a même fait, là, je trouve, le livre, là, les Cochebamba, les fameuses autos qui explosaient dans le temps, là, dans les cartels de Medellín et de Bogota, quand la rage, les cartels là, se battaient pour le contrôle de la drogue. Et là, tu as une image qui est assez hallucinante. Tu as comme des toits de maisons, mais des toutes petites maisons. Et tu as un Pablo Escobar, Don Pablo Escobar, plus grand que nature, qui est sur le toit, en pantalon, nu-pied, la chemise déboutonnée, avec un gun, un flingue à la main, qui se fait littéralement bombarder de balles de fusil. Et c'est un moment historique là, dans la culture de la violence là, en Colombie. Fait que notre grand Botero a voulu représenter ça. Il représente aussi des... Je sais pas s'il est pour ou contre, mais il y a beaucoup de la tauromachie.
OK.
Les corridas, les taureaux, les mises à exécution des taureaux. Beaucoup de thématiques religieuses. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas s'ils se moquent, je ne pense pas, parce que dans la culture latino, la culture, la religion catholique est très forte, mais il a fait des retables, il a fait des espèces de diptyques, triptyques de personnages religieux encore plus grands que nature, plus gros que nature. On dirait même une mère Teresa au pied d'une madone et d'un conquistador et de petits anges nus très bedonnants.
Ça ressemble aux icônes... aux icônes du Moyen-Âge, en fait. Là.
Exactement. Et de l'autre côté, moi, je suis fasciné, je trippe. T'as le diable avec la langue, la queue, les ailes, le feu et les têtes de mort. Fait que là, il y a un petit côté aussi mexicain. Les têtes de mort, c'est le Dia de los Muertos, des petits diables qui volent. Des hommes et des femmes dans le feu, des têtes décapitées. Et ça, c'est Botero. Fait que Botero, on pense tout le temps qu'il fait juste des ballerines, la paresseuse, un couple qui danse, un gros bonhomme, un cardinal. Non, il fait des choses, des fois, un petit peu plus hardcore. Fait que ça, vous pouvez le voir, ça s'appelle tout simplement Botero, écrit par Mariana Einstein, pas Einstein, mais Einstein, sur ta chaîne. Et ta chaîne, là, j'en ai d'autres ici, là. C'est juste ceux qui font principalement des livres d'art. T'en as un sur Koons. Connais-tu Koons?
Le nom me dit quelque chose, mais non, je connais pas vraiment.
Des gros lapins là, comme gonflés, mais qui sont faits en statues de vinyle ou des fois en feuilles d'or, des fois plus grand que nature. Koons s'était représenté, c'est un artiste américain, si je ne me trompe pas. Qui a vraiment là, fait à peu près tout. Donc, c'est un New-Yorkais. Il était à New York, en tout cas. Il a fait beaucoup du ready-made, où il a fait comme un peu comme du charme, là, l'espèce d'urinoir là, que, ouais. qu'on a vu, qui est un des premiers à le faire. Fait que là, lui, il a fait des ballons de basket. Il a fait un petit bateau gonflable. Il a fait des joueurs de basketball. Il a tout fait ça. On a-tu encore du temps, Nelson?
Un petit 30 secondes.
Un petit 30 secondes. Un Michael Jackson. Wow. Là, je suis à la pièce maîtresse.
En genre
un
de porcelaine.
En porcelaine kitsch un peu. Golden en or.
Rococo.
Et Rococo kitsch. Et avec son fameux chimpanzé dans les mains.
Samson, qui s'appelait, je pense.
Ah, ça, je peux pas le dire. Et notre Koons, dans ce livre-là, qui s'appelle tout simplement Koons, par Hans Werner Holzwart, vous le verrez, c'est sur ta chaîne. Il s'est représenté en espèce d'Adonis avec la fameuse, si je te dis, une actrice de film show italien et aussi une qui s'est présentée aux élections. C'est la Cicciolina, la fameuse Madonna
Marc-Henri,
italienne.
C'est déjà la fin de l'émission. On va se laisser sur Koons, le livre publié sur ta chaîne.
Oui.
Et on souhaite bonne semaine à nos auditeurs. Passez un bel été et on se revoit la semaine prochaine.
Si Dieu le veut.
Bye bye.
Bye bye.